Monsieur le ministre, cher Jean-François, monsieur le directeur, cher Antoine, mesdames, messieurs les administrateurs de l'EHESP, mesdames et messieurs les membres du personnel de l'EHESP, chers élèves. Alors tout d'abord, permettez-moi de me présenter brièvement à chacun d'entre vous, puisque lors de la séance du conseil d'administration qui s'est déroulée ce matin, j'ai eu le privilège et l'honneur d'être élu président du conseil d'administration. Je voudrais me présenter à vous, alors vous en saurez un peu plus sur la profession de foi qui va être diffusée très largement, puisque ça a été la volonté, notamment la mienne. Donc, je suis médecin, nul n'est parfait, PUPH, néphrologue, c'est-à-dire, vous le savez, un spécialiste des maladies rénales, et notamment avec pour compétence de s'occuper de l'insuffisance rénale chronique terminale, la dialyse, la transplantation rénale. Et puis, je suis actuellement président de l'Université de la Méditerranée, ex-Marseille 2, depuis 2004. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, la tâche qui m'attend n'est pas facile, car il m'est proposé de succéder au père fondateur de cette école. En effet, cher Jean-François, tu l'as imaginé et créé par la loi de santé publique en août 2004, et après tu as accepté d'en présider le premier conseil d'administration. Tu es celui qui allait la mettre sur rail. Une telle succession représente donc pour moi et pour chacun des administrateurs un vrai défi, comme vous pouvez l'imaginer. Ce n'est pas la première fois que je viens sur ce magnifique campus. Je me souviens d'ailleurs que quand j'y suis venu, quand je présidais les états généraux de l'Organisation de la Santé avec Annie Poder, et nous étions venus avec Madame la ministre Roselyne Bachelot pour toute une journée à l'occasion de ces états généraux. Mais il va falloir que je m'imprègne de votre culture, des enjeux et des problématiques de l'école et des difficultés et de ses forces. Bon, j'en ai eu un petit aperçu ce matin, donc effectivement, il va falloir que je m'imprègne. Le premier temps que je voudrais me fixer sera un temps d'écoute et de dialogue dans la continuité de ce qui a été développé et construit par la précédente équipe. Heureusement, Antoine Flahaut et son équipe et bon nombre des administrateurs déjà présents durant la précédente mandature assureront le trait d'union, la mémoire et le guide dont j'aurai tant besoin pour mes débuts avec vous. Comme je vous l'ai précisé il y a un instant, j'ai demandé que la profession de foi que j'ai lue tout à l'heure aux administrateurs en me présentant aux élections puisse être disponible pour tout le personnel afin que chacun de vous puisse prendre connaissance des éléments qui vous permettront de comprendre pourquoi j'ai postulé à la présidente du conseil d'administration de cette école prestigieuse. Alors, il n'est pas de mon propos de m'étendre à cet instant. L'objectif, c'est principalement de passer la parole à mon ami Jean-François Mattei. Nous l'avons invité à dresser un bilan de sa mandature. Il a souhaité profiter de cette occasion pour pouvoir vous dire à tous au revoir. La direction de l'école a proposé ce format ouvert à tous, ce qui me semble très opportun, car je crois que la dernière séance du conseil d'administration s'était déroulée à Paris. Merci Jean-François pour ce geste et ce temps symbolique important que tu viens passer avec nous et qui nous montre combien ton attachement à cet établissement est fort, et on essaiera les uns et les autres de perpétuer et si possible de développer ton œuvre. Merci beaucoup.
Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'EHESP, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur le Directeur, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la future directrice adjointe, Mesdames, Messieurs, mes très chers amis, personnels et élèves et étudiants de l'EHESP. C'est avec un très grand plaisir et beaucoup d'émotion, je dois vous le dire, que j'ai accepté l'invitation de votre directeur à venir vous adresser quelques mots. À vrai dire, j'avais souhaité ce moment de partage. D'abord, pour vous dire quelques mots concernant notre école et la formidable aventure de ces 4 dernières années. Aujourd'hui est un passage de témoin, en quelque sorte. Et puis, adresser à chacun d'entre vous quelques mots plus personnels, car je ne voulais pas partir sans vous saluer. Non seulement c'est un plaisir, je vous le redis, mais en outre, je vous le dois, comme je le dois au ministère de tutelle, qui m'ont confié en avril 2007 la mission de présider, avec l'aval du conseil d'administration, le premier conseil d'administration de l'EHESP. Mais avant tout, permettez-moi de féliciter le professeur Yvon Berland. Yvon Berland, il vous l'a laissé entendre, est un ami. J'allais dire un élève, puisqu'il fut mon externe en pédiatrie. Alors, pas un élève en néphrologie, naturellement. Mais tu as été mon externe en pédiatrie, et nous avons développé une relation étroite, confiante, solide, depuis extrêmement longtemps. Et je ne crois pas, sincèrement, que vous pouviez, mesdames et messieurs les administrateurs, faire un meilleur choix que d'avoir élu Yvon Berland à la présidence de votre conseil d'administration. Je ne crois pas que l'école pouvait avoir plus de chance. Yvon Berland a une très grande expérience. Il préside, il l'a dit rapidement, l'une des universités les plus grandes et les plus renommées de notre pays, et il est en passe de réaliser la fusion des 3 universités d'Aix-Marseille et créer la plus grande université de France. Ce n'est pas rien. J'étais ennuyé, soucieux de quitter cette école. Je suis désormais rasséréné et pleinement rassuré, même s'il est vrai que j'aurais préféré que la loi soit différente. Il n'est pas simple de résumer en quelques minutes les travaux d'un conseil d'administration qui s'est régulièrement réuni 3 ou 4 fois par an depuis 2007 et qui a entrepris la transformation de l'École nationale de santé publique, l'école de Rennes, en l'école des hautes études en santé publique. J'avais, c'est vrai, porté ce projet sur les fonts baptismaux devant notre Parlement en présentant la loi de santé publique de 2004. Une telle école faisait défaut dans notre pays et j'ai souhaité qu'elle se développe tout naturellement ici à Rennes. Alors c'est souvent tambour battant que nous avons initié cette transformation. Ce rythme rapide, je l'ai voulu. Parce que j'ai rencontré, en arrivant, une école qui, après trop d'années d'atermoiement, avait envie de passer enfin des projets à la réalité. Les personnels avaient réfléchi et même commencé de préparer la réforme. Par exemple, aucun ne désirait attendre plus longtemps pour déployer une offre de formation universitaire qui, bien sûr, allait littéralement épuiser les énergies employées à toutes les autres missions de l'EHESP qu'il fallait pourtant préserver. Nous avons pu éprouver un véritable tournis et le reproche nous a parfois été fait de mettre trop de projets en œuvre en même temps. C'est possible. Vous le savez, en cette matière, le dosage relève d'une alchimie difficile, car en faire trop peu vous expose au reproche de la frilosité. Et en faire trop risque à tout moment de rompre les fils qui maintiennent la cohérence de l'attelage. Je sais que le point de rupture a pu être atteint, sans d'ailleurs que nous ayons su percevoir les signaux précurseurs. Je l'ai regretté profondément, vous le savez, je vous l'ai d'ailleurs confié. Mais l'enthousiasme du Conseil, l'enthousiasme de la direction était au rendez-vous lors des travaux que nous avons conduits tout au long de ces 4 dernières années, avec un réel partage, j'ai ce sentiment, sur les différents sujets abordés, en même temps qu'une écoute attentive de chacun. Nous avons su, sur les sujets difficiles, prendre notre temps, chercher des compromis pour aboutir le plus souvent à un consensus presque unanime. Il faut dire que nous avions une feuille de route avec notre contrat d'objectifs et de moyens. Et en y regardant de près, je m'y suis attaché, je crois pouvoir dire que nous l'avons suivi assez scrupuleusement. Par exemple, le COM demandait la création de 10 spécialités de master, elles ont toutes été créées à ce jour. Le COM prévoyait la création de formations doctorales, ce ne fut pas simple, mais nous l'avons fait. Yvon se souvient bien de l'épopée, car il fut artisan de ce dossier déjà. Je dois dire qu'il nous a bien aidés lorsqu'il a soutenu la création originale et unique pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du réseau doctoral. On savait bien qu'en l'absence de laboratoire de recherche, il n'était pas possible de rêver avant longtemps d'une école doctorale à l'EHESP. Je l'ai d'ailleurs dit et répété aux inspecteurs de l'IGAS récemment encore, alors qu'ils semblaient persister dans leur volonté de créer une école doctorale à l'EHESP. Je le redis avec simplicité, si c'est un souhait louable, ce n'était tout bonnement pas possible en 2008, je ne suis pas sûr que ça le soit davantage aujourd'hui, et d'ailleurs, est-ce un problème ? Nous avons inscrit plus de 50 doctorants dans les formations de l'EHESP. N'est-ce pas ce que nous souhaitions tous ? A-t-on perdu en qualité et en exigence ce que nous aurions gagné peut-être en lisibilité ? Je ne le crois pas. Et François Courreau, qui nous a accompagnés fidèlement pendant toute la mandature pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pourrait vous le confirmer. Jamais nous n'avons dérogé aux règles et aux procédures qui s'appliquaient à nous. Et d'ailleurs, Patrick Hetzel, le directeur général de l'Enseignement supérieur, lors de notre dernière séance de clôture en avril, il nous a dit que nous avions innové à l'EHESP, que nous avions montré des voies et que parfois elles feraient jurisprudence dans le pays pour d'autres disciplines et dans d'autres secteurs. Et je crois savoir que déjà les écoles d'agronomie et les écoles vétérinaires pensent à nous emboîter le pas sur ce chemin d'un réseau doctoral. Dans le même temps, et dès mon arrivée, j'avais demandé à Antoine Flahaut de préserver avec beaucoup de précautions tout ce qui a fait la notoriété de l'école de Rennes. Je veux parler des formations des cadres des fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales, des établissements hospitaliers. On a pu certes nous reprocher parfois de ne pas avoir assez, pardon du néologisme, universitarisé ces formations. On l'a aussi reproché aux tutelles, tout comme au milieu professionnel. Eh bien, au-delà de ces reproches, je ne crois pas que nous sommes prêts à certaines évolutions. Le sujet ne me semble pas encore avoir atteint la maturité indispensable à la sérénité requise. Dans toute évolution, il y a ceux qui veulent la révolution. Il y a ceux qui prônent l'immobilisme et ceux qui essaient d'aller de l'avant en respectant les équilibres, ce que je me suis efforcé de faire. Il vous appartiendra, mesdames et messieurs les administrateurs, il t'appartiendra, Yvon, de décider si vous choisissez d'accélérer le rythme ou au contraire de continuer à donner du temps au temps. Il est certain que je ne voulais pas risquer de casser un outil qui fonctionnait depuis plusieurs décennies et qui reposait sur des compromis, mais aussi sur des consensus qui n'avaient pas toujours été simples à mettre en œuvre. Nous avons été prudents, trop peut-être, mais je ne parviens pas à m'en convaincre, pour être franc. Nous voulions aussi prendre le temps d'évaluer ce qui se pratiquait à l'école, avec respect pour ceux qui avaient mis en place ces formations pour la fonction publique, souvent dans une concertation originale avec les milieux professionnels. Nous avons souhaité déployer parallèlement une offre de formation diplômante pour commencer déjà d'instiller une culture de formation par la recherche et disposer d'une véritable formation d'enseignement supérieur. Désormais, dans cette école, il est possible à tous nos élèves fonctionnaires de s'inscrire librement dans des masters spécialisés, des doctorats et autres diplômes d'établissement, tout en ayant des équivalences ou des dispenses avec les formations statutaires de l'école. Ce n'est pas rien, car chacun sait que c'est toujours le premier pas qui coûte, et nous l'avons fait. Demain, vous irez sans doute plus loin, et ce sera heureux. Mais j'ai cru de ma responsabilité de ne pas compromettre ce qui avait été mis en place patiemment avec le temps. C'était d'ailleurs l'esprit de ma loi de 2004, relisez-la bien. La première mission de l'EHESP, je lis dans le texte, est d'assurer la mission de l'ex-ENSP. Nous l'avons fait sans conformisme excessif. Nous l'avons fait avec une recherche permanente du meilleur consensus possible, et sur ce point, je ne regrette pas la méthode retenue. Vous verrez d'ailleurs que les niveaux de satisfaction sont la plupart du temps au rendez-vous, tant auprès des élèves que des employeurs. Car l'EHESP mesure cela, cher Yvon. Je ne sais pas si à Marseille, dans ton université, on fait de même, mais Antoine me disait qu'à Paris-Descartes, c'était encore loin d'être généralisé. Développer la recherche a été autrement plus difficile, et nous le savions dès le départ. En rédigeant la loi, nous avions l'intuition pourtant qu'il nous semblait essentiel que la France se dote d'un potentiel de recherche renforcé grâce à l'EHESP. Mais à l'Assemblée, parce que nous savions, nous avions anticipé les difficultés initiales. Nous avions envisagé que l'EHESP contribue à la recherche en santé publique, je cite, « en partenariat avec des institutions françaises et étrangères », tant il nous semblait qu'il ne fallait pas faire table rase de l'existant. Si je ne peux pas me targuer aujourd'hui d'avoir totalement rempli cette mission, je crois que nous avons fait plusieurs avancées dans cette direction. Par exemple, en entrant comme partenaire de mixité dans 3 unités mixtes de recherche, UMR, dont une dirigée à Marseille par Xavier Lamballerie, avec ton soutien, Yvon, et les 2 autres à Rennes, dirigées par Claude Martin, Bernard Jégou, Denise Mirou. Nous avons aussi ancré l'école dans un PRESS qui associe Sciences Po à Paris et d'excellentes facultés de médecine. Cela aussi était particulièrement important avec l'arrivée du grand emprunt, la transformation de notre paysage de l'enseignement supérieur français. Nous ne voulions pas, à peine nés, devenir le vilain petit canard. Ce que nous n'avons sans doute pas encore réussi à réaliser, je l'aurais bien voulu, c'est de développer la recherche dans le domaine du management en santé. Je suis sûr que vous y arriverez prochainement. À mon sens, c'est une priorité. Force est de reconnaître qu'il n'y a pas pléthore d'UMR sur ce sujet, sur ce thème dans notre pays. Et je dois vous dire que l'on attend beaucoup de l'école et de son institut du management sur ce créneau. Il va falloir être patient, certes, mais convaincre, sans aucun doute, séduire peut-être et plus certainement encore, se retrousser les manches pour réussir dans ce domaine qui me paraît, depuis l'origine, totalement stratégique pour l'école. Je sais que Roland Olivier, qui dirige l'Institut du Management, explore des pistes prometteuses sur le sujet et qu'il vous en parlera bientôt. Sur le plan des investissements d'avenir, la partition n'est pas encore lue jusqu'au bout, je crois, mais j'espère aussi que l'école engrangera des succès significatifs. Je me réjouis déjà, sans trop vouloir parler de Marseille, mais bon, qu'elle soit partenaire de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Didier Raoult, l'un des 6 IHU qui ont été créés en France. Car cela va nous permettre de consolider la dimension de santé publique dans la recherche sur les maladies émergentes infectieuses. On ne gagnera naturellement pas partout et surtout, mais on se devait de saisir toutes les opportunités pour se positionner. Sur le plan international, nous avons, à mon avis, réussi plus rapidement que nous osions l'imaginer. Chacun connaissait ma fibre à ce sujet, Et tout ce que j'ai pu faciliter à ce niveau aura été fait de bon cœur, parce que cela répondait tout simplement à ma conviction profonde du rôle de la France dans le monde, à propos singulièrement de son modèle sanitaire et social. Ce que nous avons réalisé à ce titre ne m'est pas imputable. On le doit essentiellement à la direction des relations internationales, au personnel et aux élèves de l'école qui ont fait preuve d'un dynamisme remarquable que j'ai toujours soutenu. En Europe, l'école bénéficiait d'une solide réputation. Elle s'est encore réaffirmée puisqu'Antoine a assuré la présidence pendant ces 3 dernières années de l'Association européenne des écoles de santé publique et que l'EHESP participe à plusieurs programmes européens d'enseignement et de recherche de tout premier plan. Les autres partenariats qui ont parfois prêté à la taquinerie vis-à-vis d'Antoine, eh bien avec les pays du Nord, notamment le Canada, mais les États-Unis évidemment, sont très dynamiques. Nous avons des liens solides avec Columbia University à New York. Nous avons demandé à l'école de diversifier ses relations outre-Atlantique et elle va bientôt concrétiser un partenariat privilégié avec l'Université de Caroline du Nord, très connue justement dans le management des établissements de santé. Nous conduisons aussi des actions pour le développement avec les pays du Sud. 3 antennes, l'une au Laos, que j'ai ouverte moi-même l'an dernier avec Antoine, une autre au Mali, l'autre en Bolivie. Ce ne sont pas des centres de profit financiers pour l'école, vous l'imaginez bien. Mais quelle richesse tout de même pour nos enseignants et nos élèves. Que de mieux comprendre le monde en partageant des relations durables et de confiance avec nos partenaires du Sud. Il reste beaucoup à faire, sachant qu'évidemment tout n'est pas possible. Il faudra aussi viser les équilibres économiques, sachant que les temps sont plus contraints aujourd'hui qu'au début de ma mandature. Mais je vous engagerai toujours dans votre volonté d'ouverture sur le monde et je vous ouvrirai toujours et encore les portes de la Croix-Rouge que je continue de présider. Les problèmes de santé publique sont toujours globalisés, comme le commerce ou les migrations, et notre présence est un devoir. Il ne faut pas hésiter devant les efforts nécessaires, car à beaucoup donner dans ce domaine, sachez qu'on reçoit davantage encore. Alors, suis-je en train de céder à la tentation de l'autosatisfaction? Je ne le voudrais pas pour 2 raisons. D'abord, parce que si l'on a de réelles raisons d'être satisfait, c'est tous ensemble. Ce n'est pas moi tout seul. Ce n'est pas le directeur tout seul, ce n'est pas tel ou tel autre, c'est bien nous tous, réunis, qui avons mené aujourd'hui l'école où elle se trouve. Ça doit pour vous être un motif de fierté. Ensuite, parce que le chemin nous a réservé quelques épreuves, parfois dramatiques. C'est aussi pour cela que je ne veux pas vous livrer une vision purement idyllique des choses. La vie peut être à la fois magnifique et aussi cruelle. Nous sommes confrontés à nos limites, à nos défauts. Nous n'avons pas toujours su accompagner le changement comme nous l'aurions dû. À l'heure du bilan, il faut toujours faire la part de sa propre critique. Il n'y a pas de progrès sans l'évaluation critique et sans les leçons que l'on peut tirer de son action. Si l'école... Si vous tous, si le conseil d'administration dont je reconnais beaucoup de visages qui me sont devenus très familiers ont beaucoup de raisons d'être fiers de ces réussites, le devoir de mémoire est nécessaire. Il faudra en tenir compte et proposer les adaptations jugées indispensables. Vous comprendrez que je ne veux pas m'immiscer dans les projets futurs ou les chemins qu'il vous appartient de tracer désormais avec votre nouveau président. Vous choisirez d'avancer en alliant, je le souhaite, la sérénité et l'ambition qui sont indispensables pour répondre aux nécessités d'aujourd'hui, pour apporter vos propres solutions. Je n'ai aucune peine à vous faire confiance. Vous avez bien compris que ce ne sont pas mes adieux que je me propose de vous faire aujourd'hui, mais plutôt vous dire au revoir. Car en effet, je ne peux imaginer me détacher de vous et ne plus m'intéresser à vous. Je continuerai à suivre avec attention les évolutions de l'école, ses débats internes, sa volonté de rebondir après la profonde crise de décembre dernier, mais rebondir sans oublier, réagir et tirer les leçons. Ce n'est pas simple, ce n'est pas l'affaire d'un coup de baguette magique et cela demande du temps. Mais continuer d'aller de l'avant est un signe d'espoir, c'est un signe de maturité, c'est le témoin de la confiance que les tutelles, toujours proches de l'école, ont su lui accorder. Permettez-moi ici de remercier très simplement Emmanuelle Wargon pour son action et sa disponibilité pour l'école. Elle a su porter un regard attentif, exigeant, bienveillant sur nos évolutions, dans la ligne de ses prédécesseurs, mais peut-être avec davantage de mérite, car elle est arrivée à son poste de secrétaire général des ministères sociaux à un moment particulièrement délicat de la vie de l'école. Oui, Madame Wargon, je vous le dis, l'école aura encore beaucoup besoin de vous. De même, François Courreau, fidèle grognard, si vous me permettez l'expression, il a traversé avec nous toutes les étapes de la création de l'école. Il a su trouver les chemins parfois sinueux pour nous permettre d'avancer, de grandir, de nous transformer dans cet établissement universitaire à caractère si particulier, puisqu'il continue à former principalement des fonctionnaires de la santé publique. Je remercie aussi Antoine, qui n'a pas cessé de rester en contact avec moi, me faisant part très simplement de ses ambitions multiples, aussi de ses hésitations, parfois de ses doutes, et cela depuis le premier jour de mon engagement dans ce conseil. Il est rare encore aujourd'hui qu'une semaine se passe sans qu'il me contacte, alors que pourtant me voilà devenu un ancien pour l'école. Antoine, je vous demande de continuer à me tenir informé, toujours naturellement en parfaite loyauté avec votre nouveau président, évidemment. J'aurai à cœur de continuer à vous prodiguer mes conseils si vous me les demandez et si je suis à même d'avoir un avis qualifié. Antoine, vous êtes aussi un peu mon élève dans un autre domaine. C'est ainsi que j'avais qualifié Yvon en commençant mon propos. Vous voyez que tous ces choix sont cohérents, ce qui est heureux pour l'école, parce que ce n'est pas simple, et vous l'avez senti dans le premier propos du président Berland, ce n'est pas simple de diriger cette institution. Mais Antoine, vous êtes opiniâtre, c'est une qualité pour moi dans ce domaine. Vous écoutez les conseils que l'on vous donne, vous tenez bon la barre du navire, contre vents et marées, parfois vous devez affronter la tempête. Et si j'utilise cette métaphore, c'est parce que je sais que vous êtes un marin en Bretagne et donc que vous comprenez ce langage. Alors continuez avec toujours le souci de faire mieux. À vous tous, enfin, je voudrais vous dire merci. Car comme je l'ai dit tout au long de mon propos, si chacun de vous, enseignants, chercheurs, élèves, étudiants, mais aussi techniciens, ingénieurs, personnels administratifs, aux cuisines, au volant, au tournevis ou à la bêche, à la reprographie ou à l'accueil, chacun de vous, vous avez forgé cette école avec talent. Elle est votre œuvre. C'est vous qui contribuez à la faire vivre, à la faire progresser. Ayez du courage dans les difficultés et dans les épreuves. Cultivez vos différences, mais dans la cohésion. Et puis, bonne chance à chacun de vous, bonne route dans vos vies professionnelles comme dans vos vies personnelles. Un grand merci à tous pour tout ce que vous m'avez apporté durant ces quelques années passées auprès de vous. Je vais m'en aller plus riche de ces moments partagés et de l'espoir que vous portez. Je voudrais enfin vous dire que j'ai senti, pas toujours bien exprimé, le désir d'un plus grand humanisme encore dans cette école. Nous sommes certes devenus une grande école. Nous sommes certes une école qui conduit à des diplômes, à des formations, à des métiers, mais nous sommes d'abord et avant tout, quelle que soit la branche dans laquelle nous sommes, une école de santé. Or, la santé, ça signifie se pencher sur la souffrance et la douleur d'autrui. Et je crois que face à cet enjeu fabuleux, soulager la souffrance, il ne peut pas y avoir de querelles subalternes. Il ne peut pas y avoir d'hésitation. Soyez les porteurs de cet humanisme médical qui existe aussi en santé publique. On oppose souvent la médecine libérale ou de soins, parce que c'est une médecine du colloque singulier, à la médecine de santé publique qui pourrait devenir globalisante, anonyme et dépersonnalisée. Apportez votre humanisme dans le domaine de la santé publique. Car si vous avez affaire à plusieurs personnes, à des groupes, à des populations, sachez que ce n'est jamais que l'addition de personnes humaines. Chacune porteuse d'une parcelle de la même humanité que nous. C'est ça qui doit vous faire avancer. C'est le message que je voulais vous laisser.